ce mois-ci dans Psy Espie avec le père Jean-François Noël, prêtre et psychanalyste. Nous nous questionnons sur les tests psychologiques, leur fiabilité, leur valeur. Aujourd'hui, nous allons voir comment ces tests permettent une meilleure connaissance de soi s'ils s'inscrivent dans une relation à l'autre. Cet autre qui nous permet de prendre de la distance, qui pose un autre regard sur nous. Restez bien à l'écoute, on en parle tout de suite sur Dialogue RCF.
Psy Espie avec le père Jean-François Noël, Dialogue RCF.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième émission consacrée aux tests psychologiques. Et bonjour Père Jean-François.
Bonjour Sophie.
Pour commencer, alors vous commencez à me connaître, vous savez que j'ai une petite habitude dans cette émission, j'aime bien soumettre les thèmes de Psy Espie à la rédaction de Dialogue RCF. Certains membres de l'équipe se sont donc prêtés à ces tests de personnalité, je ne dirai pas qui. Cela a donné lieu à des moments très drôles, je dois dire. Un de mes collègues ne s'est pas vraiment reconnu dans le profil dressé par le site internet, alors que nous avions vraiment l'impression de bien le reconnaître. Alors qu'est-ce que vous en pensez?
C'est bien révélateur de ce que j'ai dit, c'est-à-dire que vous, en fait, l'autre me connaît mieux que je me connais moi-même et que je ne peux pas me connaître moi-même parce que je m'y refuse. Et ce refus n'est pas, c'est à prendre en compte. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous aviez pratiqué ça, Sophie, quand vous étiez jeune fille, ce qu'on appelle les soirées.
Que je suis toujours, non?
Oui, absolument, absolument. Mais les soirées pyjama où on dit la vérité, vous n'avez pas fait ça quand vous étiez.
Action vérité. Non, jamais.
Oui. On trouve ça dans quelques films américains et ça finit toujours par la guerre quand même. Hein. Je vais dire tout ce que je pense de toi et en général, voilà.
Chacun retourne dormir chez soi après.
Et donc les actions vérité, c'est quand même extrêmement. On voit bien que c'est quand même d'une violence incroyable. C'est que nous ne pouvons pas nous recevoir frontalement. Nous ne pouvons nous recevoir que dans un cadre d'une bienveillance et d'une attention, enfin ce que j'appelle les trois termes, l'attention, la bienveillance et la chasteté. Et la chasteté, c'est pas simplement la continence sexuelle, c'est la chasteté de la pudeur. C'est-à-dire, quand je suis avec quelqu'un, je dois, pour qu'il entende quelque chose de ce qu'il a à savoir, il faut que je le revête d'un manteau de respect. Hein, sinon, comment voulez-vous que vous me disiez, mais Père Noël, vous êtes incroyable. Enfin, si je vous disais tout ce que je pense de vous, mais je serais mort. Parce que de fait, d'ailleurs.
C'est ça la chasteté, parce que c'est vrai que la chasteté, dans l'imaginaire commun, on pense
c'est la
toujours.
Continence. Mais la chasteté, au bon sens du terme, ça concerne le respect que j'ai à l'autre pour pouvoir accéder à son intimité sans l'abîmer. C'est le respect de l'intégrité de l'autre. Il faut que l'autre, quand il m'a parlé, se retrouve habillé d'une intégrité. C'est ça, la chasteté.
C'est-à-dire que quand on fait des tests psychologiques, je ne sais pas si vous faites des tests psychologiques, mais vous n'allez pas comme ça balancer de but en blanc un profil comme ça.
Mais
à
non,
une
parce
personne.
Que la personne, elle va être blessée. Narcissiquement blessé, et qu'est-ce que je vais faire après? Ah ben non, mais il n'y a pas que ça, il y a des bons côtés chez vous, mais ça c'est de la réparation. Ce qu'on a entendu, c'est le mauvais côté. Et donc pour qu'on puisse aborder des choses négatives de soi, il faut qu'il y ait un cadre extrêmement... C'est comme un virus, c'est-à-dire, vous voyez, il faut des cadres extrêmement, neutralisants pour que la personne ne se soit pas plus blessée au sortir qu'à la rentrée. Et que donc, pour entendre quelque chose de difficile sur soi, qu'on ne veut pas entendre et que j'appelle le point aveugle, ben, il faut pouvoir le voir, le recevoir avec encore plus de bienveillance et de respect et de pudeur pour que je puisse l'accueillir comme une question sur moi-même. Sinon, c'est une blessure incroyable, c'est une blessure narcissique. Et donc, c'est pour ça que pour en revenir au début, lorsque la personne va sur Internet, c'est que d'abord, elle est blessée. Et que si elle est blessée, c'est qu'elle s'interroge sur elle et qu'au fond, il s'est passé quelque chose qu'elle n'a pas comprise. Et donc, il faut d'abord qu'il y ait un cadre. Et c'est pour ça qu'il y a des cadres thérapeutiques qui sont extrêmement le cadre, ce qu'on appelle le cadre chez nous. C'est pas simplement pour être sûr que la personne, je sais pas quoi, va respecter les horaires et les honoraires. C'est parce que ce cadre fait la confidentialité, le fait que tous restent ici, qu'il y a une heure bévalue pour ça. La personne est respectée dans ce qu'elle est et qu'elle doit ressortir reconstruite. Et c'est ça qui fait souvent défaut dans la connaissance mutuelle. C'est ça qui fait défaut dans l'altérité. C'est que souvent, on s'envoie des petites piques de défense, d'attaque, d'agressivité, d'angoisse. Par exemple, une des chastetés la plus difficile à faire, c'est de protéger l'autre de sa propre angoisse.
Mais comment on fait ?
Il faut qu'on puisse avoir un lieu pour le traiter soi-même seul ou avec d'autres, mais pas dans la famille. C'est ce qui fait qu'il y a des contaminations dans les familles, c'est que les gens non seulement partagent les frites, mais partagent leur angoisse mutuelle. Alors bien sûr que dans un cadre d'intimité conjugale ou d'amitié, on peut faire valoir. Mais il faut le faire avec le respect de savoir qu'est-ce que l'autre peut porter. On ne peut pas se faire porter par un autre. Ça, c'est une illusion complète. Il faut qu'on puisse avoir un minimum de quant à soi. Ce quant à soi peut se travailler ailleurs, en dehors des lieux. C'est pour ça que je pense à quelqu'un qui est en formation actuellement dans la vie religieuse et qui me disait « Ah oui, tout est intéressant, mais alors les autres, mais je ne savais pas que c'était si pénible à vivre, quoi. » Et de fait, on voit bien quand même que nos difficultés sont l'altérité, surtout quand on leur demande des choses qu'ils ne peuvent pas nous donner et que où on se joue, je sais pas quoi, à être un autre que soi. Il faut qu'on ait des lieux extrêmement secrets, cachés, intimes, dont on parlera peut-être dans la dernière émission, qui font qu'on, c'est là qu'on se reçoit, c'est là qu'on s'entend, c'est là qu'on prend le temps de. Mais il faut qu'il y ait une altérité, qu'elle soit d'ailleurs réelle. Avec un thérapeute, un ami, etc., ou qu'elle soit fictive, parce que quand on écrit dans son journal, c'est une manière de se connaître. Et on écrit à un interlocuteur invisible et fictif, peu importe. Hein. C'est ça aussi, la littérature. Quand un peintre peint un tableau, c'est bien pour être vu par d'autres après qui, à travers ce tableau, je vais rencontrer tel ou tel peintre. Et que cette absence de l'auteur ou du peintre ne m'empêche pas d'avoir un dialogue avec lui. La connaissance vient du dialogue avec soi à travers un autre. Voilà. Il faut introduire ce dialogue. Alors, il peut avoir lieu au cours d'un test, mais souvent, dans le test, quand même, le candidat est en position d'infériorité parce qu'il sent bien qu'il est jugé, qu'il va être évalué, qu'on va mettre une note, qu'on va le classer de Barack Obama ou de Trump et qu'il va en sortir uniquement avec ça, alors qu'il s'est passé plein de choses à côté.
Quand on fait justement ce type de test, pour vous, il ne faut pas donner comme ça le résultat de but en blanc?
Ah non, absolument pas.
De toute façon, par exemple, je pensais au séminaire. On parlait du séminaire. Avant de faire, vous prenez un candidat à qui vous faites passer un test, vous n'allez pas lui donner le résultat comme ça.
De toute façon, j'allais dire, il est assez illisible du fait du jargon de la psychologie. Si on met un certain nombre d'items, on va, je sais pas quoi, moi, mettre telle note à l'agressivité, la fuite, l'assertivité. Voilà. Il faut redéfinir tous ces termes-là. Je passe du l'inventaire de la personnalité de Gordon, par exemple, ou dans le QI, quand on donne un QI, voilà. Mais c'est quoi l'intelligence générale par rapport à l'intelligence intuitive ou l'intelligence créatrice? Donc, vous avez un QI de 120. Alors, ça, c'est le grand truc. Ou un QI de 60. Alors, vous êtes sorti, vous êtes quand même abruti parce que vous avez un QI. Mais, quel portrait réducteur qui manque de toute la saveur et le jus de la rencontre humaine. Je le racontais avec le Saint-Père tout à l'heure, lorsqu'il était encore à la compagnie des Jésuites. Vous voyez bien que parfois notre intuition se trompe parce que ça je suis jamais neutre. Il faut que je travaille à cet accueil de l'autre et que c'est là que se situe, à mon avis, le fondement de la vie chrétienne. C'est l'accueil de l'autre. On n'en a pas fini de se coltiner l'autre, de ses malentendus. C'est ça la vie profonde. Et c'est là qu'on va se révéler. Essayez d'entendre un peu. Faites l'expérience dans une semaine d'essayer d'entendre ce que vous disent les autres, à mi-mot. Voilà, à mi-mot. Au moins d'entendre déjà au moins les reproches mi-mot qu'on vous dit. Voilà. Déjà, ça vous fera.
Parfois, on n'a pas très envie de les entendre.
Non, non, parce
qu'on est un peu dans le déni aussi.
Parce
hein.
qu'un peu, c'est narcissiquement un peu blessant. Alors, même si on se dit que mon mari m'aime et que j'aime mon mari, c'est pas toujours agréable d'entendre telle ou telle chose. Or, beaucoup de messages sont envoyés par les autres sur ce que nous sommes. Et ça suffit davantage. Après, il ne faut pas y travailler. Votre mari n'est pas votre thérapeute ou n'est pas votre confident ou votre accompagnateur spirituel. Il faut le prendre dans un cadre qui prévoit cet échange d'intimité, cette intimité qui demande. C'est un endroit extrême. C'est comme moi, je parle comme un chirurgien de psychisme, en fait. Je ne m'avance pas sans les outils de précaution, d'hygiène, au sens général du terme, pour écouter le psychisme et l'intimité de quelqu'un. Ça demande extrêmement de délicatesse, extrêmement de soin, sinon la personne se trouve, ouverte, écartelée et amoindrie.
J'aimerais qu'on revienne sur l'examen de conscience. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire ce que c'est, nous rappeler ce que c'est, et est-ce que l'examen de conscience est aussi un lieu de connaissance de soi?
Absolument.
Alors qu'est-ce que c'est déjà l'examen
de conscience? L'examen de conscience, ça se faisait, nos anciens pratiquaient ça une fois
par
semaine.
Avant une confession, non, c'est pas ça.
Avant une confession, ou là, un peu régulièrement, pour rester, comment dire, en alerte, en vigilance de soi-même. Moi, je vois bien, par exemple, quand je confesse ces enfants en CM1, CM2, là, avant leur première communion, avant qu'ils ne disparaissent de la catéchèse, j'essaye de les ouvrir un peu à... C'est pas tellement les péchés qui m'intéressent. Les péchés, c'est toujours pareil. C'est assez banal. Hein. Les gens pensent qu'ils ont des péchés. C'est tellement horrible que dans tous les péchés, c'est malheureusement ce que nous vivons tous. Voilà. Et il y a des enfants, ils ont une capacité d'interrogation et de retour. Et moi, en fait, ce que je veux développer, c'est l'examen de soi, l'examen de conscience, le dialogue avec soi-même. Et dans l'examen de conscience, qu'on voit bien quand même qu'il y a un certain nombre de choses. Tiens, c'est marrant, je n'avais pas repéré à quel point cette remarque m'avait blessé, qui m'a rendu agressif ou un peu coupable finalement, après ma famille, toute ma famille en a pâti, quoi, de cette agressivité, parce qu'elle est venue d'une vexation ou d'une incompréhension ou d'un malentendu. J'accompagnais encore ce matin une famille de deuil et ils ont tous des histoires impossibles de vexation. On sait plus pourquoi, mais ça fait des années qu'on ne se parle plus, etc. Et tout le monde souffre. Alors que il faudrait bien que quelqu'un un jour prenne la décision de rompre ce malentendu. Je pense toujours à cette épouse qui disait à son mari « Je sais que tu m'as trompé, mais je sais que je vais essayer de te pardonner, mais laisse-moi le temps. » Voilà. Alors c'est énorme, hein, c'est énorme. Mais elle sait que le blessé est celui qui n'a pas la carte en main de changement. C'est celui qui, enfin le blessé, le celui qui a fait l'offense, celui qui a fait l'offense, il est enfermé dans sa peur ou dans sa culpabilité. C'est celui qui a été offensé, c'est ce que fait le Christ. Le Christ, en se faisant le plus petit parmi nous, est celui qui va changer la donne parce que il va offrir son pardon. Et donc on voit bien que pour entendre quelque chose de sa propre faute, c'est ça l'examen de conscience. Il faut que quelqu'un m'écoute avec bienveillance comme avec Dieu. Moi, je t'écoute et je ne te juge pas, mais par contre, c'est bien que tu puisses le dire. Voilà. Et cet examen de conscience était un lieu de retournement sur soi, qui est un lieu extrême de connaissance de soi. Moi, il y a des choses qu'on m'a dit dans le cadre de l'accompagnement ou dans le cadre, ou dans l'analyse évidemment, mais dans le cadre même quand j'étais enfant, qui m'ont énormément marqué, même si c'était des toutes petites choses, qui effectivement m'ont bien plus marqué que tout ce que j'ai fait après comme test éventuellement.
Merci beaucoup, Père Jean-François Noël, prêtre à Istres et psychanalyste à Aix-en-Provence, pour votre éclairage. La semaine prochaine, nous verrons si les tests peuvent être une aide au discernement ou encore un instrument de croissance spirituelle. À très bientôt à l'écoute de RCF.
Espie avec le Père Jean-François Noël, Dialogue RCF.